Ce forum est réalisé dans le cadre du concours de production de forums radiophoniques sur les initiatives locales en faveur du climat, organisé par le Studio Kalangu et financé par la coopération suisse.
Le forum de Alternative. Le forum de Alternative est une émission qui traite des questions d'intérêt général.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Bienvenue sur le forum de la radio Alternative. Mon nom est Diado Ahmad Maimouna. Mon technicien du jour s'appelle Abdoulaye Moussa Guissou. Le thème de l'émission d'aujourd'hui porte sur les initiatives locales en faveur du climat. Nous allons tout au long de ce forum échanger avec nos invités sur la question de l'assèchement du fleuve Niger. Un fleuve qui n'est aujourd'hui que l'ombre de lui-même, confronté aux impacts du changement climatique. Le fleuve s'assèche à vue d'œil, mais surtout nous appesantir sur les initiatives locales qui sont faites pour réduire les impacts du changement climatique sur le fleuve Niger. Un fleuve qui n'est aujourd'hui que l'ombre de lui-même, confronté aux impacts du changement climatique. Le fleuve s'assèche à vue d'œil. Le fleuve Niger est le troisième fleuve d'Afrique après le fleuve Congo et le Nil d'Égypte. Long de plus de 4000 km, il traverse la ville de Niamey sur une distance de 15 km et constitue une des sèves nourricières de cette population. Parmi ses avantages, on peut citer les cultures de contre-saison, la pêche, le pâturage, mais aussi diverses utilisations profitables aux habitants de la ville de Niamey. À titre comparatif, selon le service de l'hydraulique, en juin 2023, la hauteur d'eau observée était de 270 mètres cubes. En 2024, au même mois, la hauteur d'eau observée est de 174 mètres cubes, ce qui montre la variation des saisons et qu'il va falloir trouver des mécanismes d'adaptation face à cette situation. Les autorités, les exploitants, mais aussi plusieurs organisations mettent en œuvre des initiatives locales pour préserver et réduire les effets du changement climatique sur ce fleuve. Pour évoquer toutes ces initiatives qui sont faites par les uns et les autres, nous avons invité dans ce studio un représentant du ministère de l'Hydraulique, un membre de l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement, un producteur exploitant du fleuve Niger. Bonjour, bienvenue et merci à vous, chers invités, pour avoir répondu à notre invitation. Et je commence par ma droite. Votre présentation.
Bonjour, je suis Sani Ayouba, cofondateur et directeur exécutif de l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement, JVE Niger.
Bonjour, je suis Abdou Adamou, cultivateur sur le site riziculteur de Saga.
Donc, moi, c'est Mohamed Hussein Ibrahim. Je suis à la direction des ressources en eau au ministère de l'Hydraulique, de l'Assainissement et de l'Environnement.
Justement, nous restons avec vous, Monsieur Mohamed Hussein Ibrahim. Je rappelle que vous êtes responsable de l'hydrologie au ministère de l'Hydraulique et de l'Environnement. Pour ce premier tour de table, la question, c'est quelle comparaison faites-vous de la situation actuelle du fleuve et de celle d'il y a 5 ans?
Bon, tout d'abord, je vous remercie. Donc, effectivement, avec les effets du changement climatique, on a constaté qu'on a les extrêmes climatiques. On a les extrêmes climatiques au niveau du fleuve, c'est quoi? C'est-à-dire pendant la période sèche, on a les niveaux d'eau qui baissent. Et pendant la période humide, comme le fleuve il a deux crues, et notamment la crue locale et la crue guinéenne. Donc pendant la période d'hivernage, souvent on a des débordements du fleuve, on a des inondations. Ou bien on a des débits qui sont inférieurs aussi par rapport à ce qu'on observe habituellement. Donc on assiste à des variabilités. Et ces dernières années, comparativement aux 5 dernières années, quand on trace les hydrogrammes de débit, on constate que, par exemple, pour cette année, pour le mois de juin qui a commencé, c'est vrai, l'hydrogramme est pratiquement équivalent à celui de l'année passée, mais les deux, pour ce mois, on constate qu'ils sont quand même en bas de la moyenne décennale.
Monsieur Sani Ayouba, concrètement, dites-nous ce que vous faites comme action pour sauver le fleuve Niger.
Oui, merci. Notre association Jeunes Volontaires pour l'Environnement, depuis sa création, a adopté une méthodologie basée sur la sensibilisation, l'information et la formation des jeunes pour prendre en charge ou pour participer à toutes les initiatives de développement durable au Niger. Et étant moi-même ressortissant de Gamkale, donc qui est un quartier au bord du fleuve, donc c'est à juste titre que la plupart de nos activités concourent quand même aussi à la sensibilisation par rapport à la préservation des eaux du fleuve. Donc depuis la création en 2009, nous menons des actions de sensibilisation pour que les gens comprennent aussi la question de la pollution du fleuve, la question de l'ensablement, mais la lutte aussi contre la jacinthe d'eau. Et depuis quelques années aussi, à partir de 2012, nous avons mis en œuvre un programme de valorisation de la balle de riz. La balle de riz qui est un résidu agricole qui n'a pas de valeur marchande. Donc tout au long de la vallée du fleuve, nous avons fait la promotion des foyers améliorés. Donc les foyers améliorés qui utilisent la balle de riz comme combustible. Donc ces foyers améliorés permettent quand même aux riverains, ou bien en tout cas partout où il y a une activité avec les riz, d'utiliser cela comme combustible. Et ça permet aussi de réduire l'impact sur le couvert végétal, ça permet de réduire l'impact sur le bois. Parce que la coupe abusive du bois fait partie des raisons qui sont en train de détruire ou bien de tuer à petit feu le fleuve Niger relativement à la question de l'ensablement.
Je reviens vers vous, M. Abdou Adamou. De votre côté, qu'est-ce que vous faites vous-même pour pouvoir sauver donc le fleuve Niger? Quelles sont les actions que vous menez?
Bien, nous, pour nous, comme je disais, nous sommes des agriculteurs. Donc, tout ce qu'on pouvait faire, par exemple, quand il y a la jacinthe, par exemple, qui monte beaucoup, qui nous parvient jusqu'à Saga, là, on mobilise des gens pour essayer d'évacuer cette jacinthe parce que ça bloque l'eau, surtout comme on a une station de pompage sur le fleuve qui doit nous drainer l'eau sur notre périmètre. Donc, quand il y a la jacinthe qui se stagne sur l'eau, là, vraiment, l'écoulement, nos pompes n'arrivent pas à tirer suffisamment l'eau. Donc, pour cela, on est obligé de mobiliser des gens pour aller enlever cette jacinthe-là. Et aussi, là où on a posé les pompes, souvent, quand le niveau de l'eau baisse complètement, donc il y a un ensablement que nous serons obligés de venir. Souvent, on amène une pelle, un caterpillar, pelle Poquelin, pour enlever le sable. Et on amène aussi des bras valides quand la pelle, des endroits où la pelle ne pouvait pas travailler, c'est avec des pelles que nous faisons, à coups de pelle, que nous enlevons le sable. Donc, il y a ces procédés-là. Mais sinon, seul l'État, nous, en tout cas, en tant que cultivateurs, nous n'avons pas de gros moyens pour faire ce travail. Souvent, on fait appel à l'État et ce n'est pas tout le temps que nos appels sont vraiment satisfaits. Donc, cela nous amène souvent qu'on ait des manques d'eau. Et quand le fleuve tarit carrément, il y a des poches qui se vident carrément. Donc, même au niveau de notre station de pompage, il y a des endroits qui cherchent carrément, il n'y a pas d'eau. Et donc, on serait obligé de creuser, de faire en sorte que l'eau parvienne à nos pompes pour pouvoir irriguer l'eau. Donc vraiment, nous avons suffisamment de problèmes sur ce fleuve. Et pour le désensabler, nous, à notre niveau, on ne peut rien. Et seul peut-être l'État, parce qu'il fut un temps, dans les années 60, voire 1972-73, il y avait une entreprise qu'on appelle Dragage. Cette entreprise, c'était basée à Saga. Et ils avaient des gros engins avec lesquels, quand l'eau tarit, ils rentrent dans le lit du fleuve pour prendre leur gravier et le sable. C'est des engins qu'on appelle scrappers. Donc ces engins-là, c'est eux-mêmes qui ont sous leur bas les moyens de creuser, de prendre le sable et de sortir avec. Donc ils ont fait un dépôt à Saga même où on faisait du concassage des roches qu'ils prennent. On lavait les cailloux pour trouver le gravier. On lavait le sable pour trouver du sable qui n'est pas mélangé avec de l'argile. C'est avec tout ça là que le service, la société Dragage faisait dans le temps les routes bitumées. Donc à ce temps-là, le fleuve vraiment ne connaissait pas ce problème dans l'assemblement au niveau de Saga. Parce que tout le temps, les engins là sont en train de creuser, de creuser. Et maintenant, quand l'eau revient dans le lit, c'est un lit profond, ça contient beaucoup d'eau, ça nous permet de bien travailler. Mais depuis que cette société n'existait plus, donc on a cessé de creuser le lit du fleuve. Maintenant, le sable s'était tellement entassé que facilement l'eau, aussitôt ça vient, aussitôt ça s'en va.
Alors, Monsieur Ousseni, vous êtes interpellé. Qu'est-ce que vous faites au niveau du ministère par rapport justement à ce fleuve?
De ce côté, l'État fait beaucoup d'actions. La plantation des arbres, avec nos collègues de l'environnement, chaque année on plante. Et il y a également la régénération du couvert végétal pour fixer le sol. Quand on fait les demi-lunes, vous voyez donc le couvert végétal qui se régénère, qui fixe le sol pour éviter l'érosion. Et le traitement des kauris, les berges des kauris, vous voyez, on les bloque avec des gabions, des perrets cimentés pour éviter que ces kauris qui se créent et qui s'accentuent, qui s'aggravent et sur les berges, que le sable soit décapé et que tout rentre dans le fleuve. On fait également des seuils pour bloquer le transport solide. Tout ça, l'État fait des actions. Mais il faut reconnaître que les populations aussi, comme il dit, doivent aussi accentuer les actions.
Oui,
par la plantation des arbres. C'est important. Parce que tout le changement climatique, si vous voyez, ça tourne autour de ça. Si on plante assez d'arbres, vraiment, non seulement on va faire baisser les températures, on va bloquer l'érosion, les problèmes du fleuve même vont diminuer. Mais le problème également que je vais souligner ici, c'est de trouver la terre pour planter des arbres. Aujourd'hui, il y a également un problème de terre, insuffisance. Quand vous partez pour planter, quelqu'un il sort, il vous dit que ça c'est la terre de ses grands-parents, et puis là on ne peut rien faire. Ou bien même, on vient, on plante des arbres, on tourne le dos, après je ne sais pas, une semaine ou 10 jours, les gens ils viennent, ils coupent tout, ils jettent, et ils disent que non, non, ça c'est pour leurs ancêtres, le terrain il faut le bloquer, personne ne peut rien faire. Et du coup, on a des difficultés pour trouver où planter des arbres. Sinon, comment vous pouvez expliquer que des plateaux, les versants des plateaux, où on veut régénérer le couvert végétal, quelqu'un il sort, il dit que ça lui appartient. Donc, il y a le problème de la terre qui est là, et je pense qu'il faut qu'on pense planter des arbres, régénérer le couvert végétal, traiter. C'est ça qu'on appelle le traitement des bassins versants. D'abord, une fois que les bassins versants sont traités, ça va éviter que le sable revienne dans le fleuve. Et après ça, maintenant, on peut faire l'action de désensablement du fleuve. Aujourd'hui, il y a des techniques, les ingénieurs savent le faire. Il y a des méthodes pour désensabler le fleuve avec les outils qu'il faut, avec les ingénieurs. Et là, on le fait bien et puis je pense que ça va aller.
Monsieur Sanayouba, comment appréciez-vous l'implication des communautés et d'autres organisations dans ces efforts-là?
C'est assez timide à mon avis, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez faire un mois sans voir une action en cours portée par des communautés ou des organisations dans le cadre de la sauvegarde du fleuve. C'est-à-dire que bien qu'il y ait quand même un début de prise de conscience par rapport aux enjeux liés à l'ensablement du fleuve, mais les actions demeurent toujours timides. Donc pour moi, c'est très important que des personnes qui sont directement, qui dépendent directement du fleuve ou bien qui sont impactés par l'ensablement du fleuve s'organisent pour trouver des solutions localement d'abord, sans attendre une aide extérieure. Donc c'est ça qui est appréciable, parce que souvent, les gens attendent toujours de l'aide extérieure sans que ça ne vienne. Mais avant que l'aide ne vienne, les gens aussi se mobilisent et commencent déjà à trouver des solutions localement. Donc ça, c'est appréciable. De l'autre côté, il y avait eu à un moment des initiatives portées par des jeunes, à un moment qu'on avait appelé souvent le fleuve Niger, mais qui n'avaient pas pris de l'ampleur. Parce que les premières actions, c'était, on avait commencé tout au long des berges du fleuve quand même à faire des salubrités, des ramassages des déchets plastiques pour réduire cette pollution. Mais c'était aussi de faire du plaidoyer pour que les autorités prennent la question à bras le corps et surtout commencent à investir. Parce qu'on ne peut plus continuer à accepter que le fleuve demeure le dépotoir de la ville de Niamey, par exemple. On ne peut plus accepter que des industries continuent de déverser directement les déchets qui sont issus de leurs activités dans le fleuve sans compensation, sans traitement au préalable. Ça, ce n'est plus, on ne doit plus accepter cela. Et de l'autre côté aussi, il faut que les communautés participent également dans la gestion. La plupart des projets peut-être qui avaient eu lieu autour de ça, je ne sais pas trop si les communautés ont été impliquées pour être des parties prenantes dans la mise en œuvre. Pas seulement des bénéficiaires, mais qu'ils participent aussi. Parce qu'après, ces projets-là quittent, laisser ces communautés. Nous, on avait mené un projet dans le cadre d'un programme qu'on appelle PAF, Petite Action Faisable, vers Liboré. Donc, il y a Maléléa, je crois, un village des pêcheurs qui était confronté vraiment à un problème d'eau et d'ensablement du fleuve. Alors que ce sont des pêcheurs, c'est des villages de pêcheurs, ils ne peuvent rien faire sans le fleuve. Mais du fait du changement climatique, du fait de l'assèchement aussi du cours d'eau, ils sont contraints aujourd'hui à faire des petits commerces, d'autres même à s'exiler ou à se déplacer. Donc, nous avons fait une action qui avait constitué à faire des faucardages aussi pour un peu nettoyer, enlever les mauvaises herbes, couper tout ça, mais également les aider à lutter contre souvent la jacinthe d'eau, parce que la jacinthe d'eau, sa prolifération empêche la navigation sur le fleuve, ça empêche aussi certains types d'espèces de prospérer. Donc tout ça, c'est des initiatives que localement les gens peuvent mener, mais les communautés demeurent limitées, à mon avis, par rapport à leur intervention. C'est pourquoi les municipalités riveraines du fleuve doivent mettre dans leur plan d'action des initiatives visant vraiment à soutenir ces communautés qui dépendent. Parce que plusieurs personnes dépendent. Il y a des communautés qui vivent sur des îles au sein du fleuve, qui dépendent de la pêche, qui dépendent de l'écoulement normal de ces eaux. Donc, si ça continue comme ça, on risque de ne plus avoir même de l'eau. Parce qu'une partie de l'eau qui est consommée à Niamey provient d'où ? Provient normalement du fleuve. Donc, si rien n'est fait, on continue à observer de manière pacifique la mort lente du fleuve Niger, un jour, on risque de se retrouver où on aura un problème d'eau à Niamey alors qu'on disait qu'il y avait eu un fleuve. Nous, on ne voudrait pas qu'on arrive à ce niveau.
Oui, donc parlons des défis. Vous avez des actions, mais quels sont aujourd'hui les défis auxquels vous êtes confrontés aussi?
Les défis, pour moi, les défis majeurs demeurent quand même la question des ressources. Parce qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit, malgré qu'il y a beaucoup d'initiatives parlant de l'autorité du fleuve Niger, du bassin du fleuve Niger, parlant du ministère en charge de l'hydraulique et autres, aujourd'hui, quand on est sur le fleuve, on ne constate pas qu'il y a des programmes ou des initiatives qui concourent à sauver ou à protéger ce fleuve. Ça, c'est une chose qui, à mon avis, doit être revue. Il faudrait aussi qu'il y ait des programmes plus ambitieux. Le défi d'avoir des programmes qui mobilisent l'ensemble des parties prenantes, que ce soit les autorités, que ce soit les communautés, que ce soit les secteurs privés, que ce soit la société civile. Vraiment des programmes ou des projets qui permettent de mettre tout le monde autour de la table et chacun, en fonction de son domaine d'intervention, peut voir qu'est-ce qu'il peut apporter. Parce que le fleuve, quand même, c'est un patrimoine. Le fleuve génère des ressources. Ça contribue à l'économie, ça contribue à la stabilité. Donc, il y a beaucoup d'avantages. Mais s'il n'y a pas un projet multi-acteur où il y a une gouvernance de l'eau, une gouvernance, en tout cas, des eaux du fleuve Niger qui est multi-acteur, acteurs où tout le monde participe, il n'y aura pas d'appropriation de tous les initiatives. Les gens ne vont toujours attendre que l'État vienne protéger les eaux. Donc aujourd'hui, il faut qu'il y ait des mécanismes qui vont permettre à ce que des gens de Gamkale ou des gens de Saga ou Yantala, etc., quand ils voient des gens faire du tort dans les lits du fleuve, qu'ils puissent l'empêcher sans pour autant attendre qu'il faut que la mairie vienne. Aujourd'hui, on a des parties du fleuve où les gens construisent dans les lits du fleuve. Ça, ce n'est pas acceptable. Il y a des parties où on fait des digues pour un peu stabiliser le mouvement de l'eau. Il y a des gens qui cassent ces digues-là. Personne ne dit rien parce qu'on suppose que ça les regarde pas ou bien c'est un patrimoine pour tout le monde. Même si c'est pour tout le monde, il appartient à tout un chacun de contribuer dans sa sauvegarde. L'autre aspect pour moi aussi comme défi, c'est vraiment le défi réel de la prise de conscience par rapport aux effets du changement climatique sur les eaux du fleuve. Parce que dans toutes les politiques en lien avec la lutte contre le changement climatique, la notion, en tout cas cette question du fleuve doit revenir et on doit trouver ensemble, que ce soit au niveau de la lutte contre le changement climatique ou la question de la désertification, le fleuve trouve toujours sa place. Donc, il doit y avoir des mécanismes ou des initiatives pour contribuer à la sauvegarde de ce fleuve. Donc, il faut que les autorités à ce niveau aussi puissent faire les parallèles et puissent faire ce travail multisectoriel pour que les gens ne pensent pas que non, le fleuve c'est seulement pour l'hydraulique ou c'est seulement les régions qui sont traversées par le cours d'eau. Donc, pour moi, c'est très important qu'il y ait cette vision ou bien c'est déjà d'initiative où les responsabilités sont partagées. Maintenant, l'engagement communautaire, il faudrait qu'on mette aussi les communautés en avant. Comme on l'a dit, il y a peu en termes de défis, il n'y a pas de valorisation, à mon avis, des initiatives ou bien de l'apport des communautés aussi dans la sauvegarde des eaux du fleuve. Parce qu'on pense que non, c'est juste des communautés qui dépendent du fleuve, ils n'ont pas un grand rôle à jouer, ils font rien. on essaie de minimiser. Je suis sûr que dans chacune des communautés riveraines, ou bien des communautés qui vivent soit sur le fleuve, ceux qui sont sur les îles, ou bien qui font des activités avec les eaux du fleuve Niger, ils font des initiatives qui leur permettent de rester plus résilients, qui leur permettent de s'adapter face aux différents fléaux. Donc pour moi, il serait important de capitaliser ça pour dire voilà les communautés, par exemple les riziculteurs des Sagas, ce qu'ils font pour maintenir l'écoulement normal des eaux du fleuve. Mais il n'existe pas ça. Donc il y a des défis en termes de données et de valorisation des bonnes pratiques portées par les communautés.
Voilà. Monsieur Abdou, quelles sont vos craintes face à cette situation du fleuve?
Bon, nous, nos craintes sont multiples parce que les coraux ne cessent pas d'alimenter ce lit du fleuve. Le sable ne cesse pas de remplir aussi le lit du fleuve. Donc, si du côté des coraux même qui déversent dedans, l'État ne fait rien pour, amortir à ce que, qu'il n'y ait pas beaucoup de sable qui descend dans le lit. Et là, je crois que le problème reste toujours. Et nous, chez nous, par exemple, comme le lit est complètement mort, j'allais dire rempli de sable, et facilement, donc, quand il y a l'abondance des pluies, tout de suite l'eau monte. Donc même la digue de protection qui a été faite pour protéger notre rizière, cette digue ne pouvait pas vraiment empêcher l'eau de couler dans les rizières. Donc pour cela, on a même demandé que cette digue-là soit vraiment bien construite parce qu'aujourd'hui, elle n'est pas vraiment une digue qui peut nous sauver d'une inondation. Donc pour cela, nous avons tenté plusieurs fois de dire qu'on doit d'abord élargir cette digue et encore la rehausser, et aussi du côté fleuve, même si on ne prend pas toute la digue, côté fleuve quand même, qu'on essaie de trouver un moyen de faire du béton, ne serait-ce que, je ne sais pas, une partie, ou bien faire des plaques de ciment qu'on doit mettre pour l'érosion. Parce que quand l'eau monte, ça s'infiltre dans la digue. Si par exemple on a construit le côté du fleuve là, sur toute la longueur où il y a au moins l'aménagement, je crois que ça n'allait pas ronger cette digue. Donc cela n'a pas été fait. Ils ont tenté de le faire au niveau, une petite partie a été expérimentée et ils ont vu que vraiment cela pouvait servir, mais ça n'a pas continué parce qu'on aurait dû faire ça sur toute la longueur au moins des rizières. Donc vraiment pour protéger nos rizières, notre problème c'est les rizières. Quand les rizières là n'existent pas, quand les rizières là ne donnent pas, on n'a pas de champ de mille, on n'a rien. Tous nos champs sont maintenant lotis et construits. Donc, il n'y a que les rizières qui sont dans nos mains. C'est avec ces rizières-là que nous cultivons, nous trouvons de quoi manger. Et si cela aussi, personne ne se soucie à les protéger, je crois que vraiment, ça, on nous met carrément en débandade. On ne sait pas où aller. D'abord, nous sommes des gens de Saga. On n'a pas d'autre lieu où on peut aller. Donc, c'est même une façon de dire qu'on nous fait déguerpir de force et nous, je ne sais pas où aller. Donc, ils ont même la dernière fois avant que ce régime, ce nouveau régime ne vienne, on nous a dit qu'on va nous faire déguerpir de là et qu'on ne va plus continuer à rester et ils vont faire de tout notre quartier des rizières. Bon, on ne refuse pas qu'on fasse de Saga des rizières, mais que Saga là est un endroit propice à notre survie pour que nous puissions aussi trouver nos comptes. Par exemple, la dernière fois, ils ont demandé à ce qu'on nous amène jusqu'à l'enseignant-chercheur. Là-bas, qu'est-ce qu'on peut faire? Sur 200 mètres carrés, tu vas te construire et où est-ce que tu vas cultiver? L'endroit ne t'appartient pas. Maintenant, quand tu veux revenir aussi à Saga pour trouver ta rizière et la cultiver, tu ne vas pas faire 20 km chaque matin pour venir cultiver. Donc pour cela, il faut vraiment qu'on pense trouver des solutions pour ce fleuve-là. Moi, je crois, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu une société qui a travaillé dedans. Pourquoi ne pas chercher, quand par exemple il n'y a pas d'eau dans le lit, demander à tous ceux qui travaillent avec du gravier et du sable qu'ils prennent ça dans le fleuve. Et même si eux, les entrepreneurs, n'ont pas les moyens de ramassage, que l'État les aide. Par exemple, à leur trouver des bulldozers, des chargeuses, au moins, comme ça, même si c'est, la personne va payer quelque chose, ne serait-ce que pour qu'il puisse faire venir sa benne, son camion, remplir, sortir, aller travailler avec. Si cela se faisait, au moins, au niveau de Niamey quand même, franchement, façon dont il y a des constructions, par-ci, par-là, on peut atténuer un peu au problème.
Oui, mais vous avez parlé tout à l'heure qu'il y a une société qui auparavant faisait le travail.
Oui.
Mais puisque cette société n'est plus d'actualité, mais vous, en tant que riziculteur, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez attendre qu'une autre société vienne ou bien vous-même, vous avez d'autres initiatives?
Pour des personnes vulnérables que nous sommes, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, dans ce travail gigantesque? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'avec nos mains, on peut désensabler ce fleuve? On ne peut pas. Il faut bien qu'il y ait des moyens pour faire ça. Il faut qu'il y ait des engins, des machines pour le faire. Mais si l'État nous laisse à nous-mêmes pour qu'on fasse quelque chose dans ce fleuve-là, c'est dire qu'on nous suicide, c'est tout. C'est vraiment un suicide.
Et vos craintes pour les femmes et les autres couches sociales, puisque vous avez parlé de vous, et maintenant les femmes et les autres couches sociales qui sont aussi les jeunes qui sont aussi avec...
Voilà, ces jeunes-là, c'est avec les terres qui ne sont pas inondées qu'ils font leur culture de contre-saison. Les femmes aussi en font la même chose. Maintenant, avec ces inondations, il n'y a plus de terres cultivables. Il n'y a plus de terre. Dès que ça vient, ça inonde partout. Dans les îles même, on travaillait avant. Et aussi, je ne sais pas comment on l'appelle en français, c'est-à-dire quand l'eau du fleuve reste dans le lit, le devant de le pied, c'est-à-dire au pied du fleuve, avant, on labourait pour semer du riz. Maintenant, quand l'eau monte en période de froid, janvier, autre là, quand l'eau monte, c'est en ce moment que ce riz-là produit. Et maintenant, avant que l'eau se retire déjà, on a moissonné le riz là. Maintenant, aujourd'hui, tout ça là, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce que le lit du fleuve ne contenait pas de l'eau qui permettra à ce riz d'aller à terme. Avant que le riz ne soit au stade de moisson, déjà, il n'y avait plus d'eau dans le fleuve. Il n'y a que le riz pour lequel on faisait le pompage qui peut marcher. Mais le riz qu'on met avant que nos papas faisaient traditionnellement, aujourd'hui ça n'existe pas. Parce que le fleuve ne contenait plus de l'eau qui durera jusqu'à la moisson de ce riz. Mais par contre, pour l'aménagement, où on essaie de pomper, et ça aussi c'est pas à tout moment. Par exemple, au temps de la chaleur, il n'y avait pas d'eau. Les gens se peinaient pour avoir de l'eau, même pour irriguer dans les rizières. Et tout le temps, ils sont en train de se bagarrer parce que tu vas faire des barrages, empêcher à l'autre d'arroser, lui, toi qui arrose, il vient, il dit niet, il n'accepte pas. Tout ça, c'est parce qu'il n'y a pas suffisamment d'eau. Donc la jeunesse que vous dites aussi, n'ont plus de place pour faire leur contre-saison. Et ces femmes-là aussi n'ont plus de place pour faire des élevages, ils n'ont pas des endroits où attacher les animaux pour les faire pâturer, il n'y en a pas. Il n'y a pas de pâturage. Avant, il y avait du pâturage. Toutes les femmes, par exemple, dans chaque concession, il ne manque pas de trouver des bœufs, de petits ruminants. Mais aujourd'hui, tout ça-là n'existe pas parce que tu n'as pas où attacher ça. Dans ta concession, tu ne peux pas les garder. Dans là où tu dois les faire pâturer aussi, il n'y en a pas.
Ce forum est réalisé dans le cadre du concours de production de forum radiophonique sur les initiatives locales en faveur du climat.
Ouais. Avant de poursuivre ce forum, nous allons écouter ces témoignages de quelques exploitants et riverains qui nous disent ce qu'ils font pour faire face à ce phénomène. Nous allons les écouter ensemble.
Nous, ce que nous faisons en tant que citoyens, c'est surtout la sensibilisation. En plus de ça, on a des actions de plantation parce qu'il n'y a plus d'arbres suite à la déforestation. Et aussi, des fois, nous interpellons aussi les autorités par rapport à cette question, que ce soit les autorités de la ville de Niamey ou les autorités nationales.
Vraiment, ça ne va pas. Ce n'est plus comme avant. À cause de l'ensablement et la pollution, ce n'est plus pareil. L'État doit prendre ses problème à bras le corps. Même si que j'ai remarqué, de l'autre côté, il y a des camions là en train de charger du sable. Nous ne pouvons rien faire. Nous n'avons pas la force et les moyens. Nous ne pouvons que ramasser les déchets. Mais ça ne suffit pas. On ramasse, ça revient demain. Il faut l'État pour faire ça.
Ma principale activité dans cette vie, c'est la pêche. Ce que je vois aujourd'hui est différent des années passées. Cela nous dépasse. Nous avons fait de notre mieux pour sauver le fleuve et les poissons. Mais c'est plus fort que nous. Nous sommes impuissants devant cette situation. Nous avons creusé des trous pour recueillir l'eau, pour améliorer la végétation et arrêter l'ensablement du fleuve. Mais aujourd'hui, le poisson même qu'on trouve fait pitié. Même si tu le pêches, c'est juste du gâchis.
Voilà, donc vous venez d'écouter quelques témoignages dans ce Vox Populis. Et quelle réaction vous suscite ces témoignages, Monsieur Mohamed?
Bon, effectivement, les témoignages sont, je trouve ça très intéressant. Effectivement, tout ce qu'ils disent, c'est vrai. Mais il faut en fait situer le problème. Ils ont parlé du problème d'ensablement du fleuve. Ça, c'est une réalité. Mais qu'est-ce qui cause l'ensablement du fleuve? C'est la dégradation des bassins versants. Et en quelques, si on situe le problème, quelque part, c'est, l'homme est dans le problème. C'est des problèmes anthropiques. Parce que le problème, c'est le déboisement, comme ils l'ont dit. Le déboisement, quand on déboise, on coupe les arbres, tout ça, donc on provoque l'érosion. On crée même des nouveaux courris qui génèrent du sable. Et l'érosion s'accentue et qui génère beaucoup de sable dans le fleuve. Et on trouve que le fleuve sans sable. Et du coup, l'hydraulicité du fleuve diminue. C'est-à-dire que le fleuve même ne transporte plus assez d'eau. Mm-hmm. Ce qui fait que les débits deviennent faibles. Mm-hmm. Donc, le sujet, il faut traiter ce problème-là. Mm-hmm. C'est bien sûr lié au changement climatique. Donc, la solution, effectivement, c'est le reboisement. Et il y a beaucoup d'autres choses en parler. Il y a les déchets plastiques, il y a la qualité de l'eau.
Monsieur Saini.
Oui, moi, je suis vraiment peiné aussi, comme la plupart de ceux qui ont intervenu, par rapport à la situation d'une mort lente, comme je l'ai dit, et progressive du fleuve Niger. Je pense que l'alerte a été donnée depuis très longtemps. Déjà en 85, je pense qu'il y avait une journée où on dit que le fleuve a même cessé de couler. Mm-hmm. Donc, dès lors, il était important que chacun joue sa part. Et donc, aujourd'hui, on ne peut pas délaisser les communautés qui dépendent exclusivement de ce fleuve. Je pense qu'il y a plus de 50 000 pêcheurs au Niger, familles de pêcheurs au Niger qui dépendent que des eaux du fleuve, sans compter ceux qui font la riziculture, ceux qui font les activités maraîchères autour du fleuve. Donc, c'est une situation qui risque d'être une crise humanitaire si on ne fait rien jusqu'à maintenant. Donc aujourd'hui, il est important que les communautés soient soutenues pour jouer leur part aussi. Parce que si on laisse les communautés... Parce que ce n'est pas... Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui commencent même à abandonner l'activité de la pêche. Quand on avait travaillé avec les pêcheurs à Tilaberi ou même ici, comme je l'ai dit, vers Liboré, beaucoup disent qu'aujourd'hui, ils sont obligés de faire d'autres activités, comme un peu de business ou l'entrepreneuriat, ou bien quitter carrément ou abandonner. Alors que c'est une activité ancestrale que les gens faisaient de manière séculaire, de famille en famille. Et aujourd'hui, on propose des alternatives comme l'agriculture. Un pêcheur n'est pas un agriculteur, ou l'élevage. Donc aujourd'hui, on ne sait plus d'abord qui est pêcheur, qui est agriculteur, qui est éleveur. Chacun essaie de survivre. Donc, on ne peut plus continuer, on ne peut pas parler de développement dans ce sens. Donc, pour qu'il y ait du développement, il faut que les gens se spécialisent davantage et soient soutenus dans le métier qu'ils maîtrisent le plus. Mm-hmm. Et donc, à ce niveau, c'est exclusivement la pêche. Donc, il est important de soutenir cela. Donc, pour moi, je pense que c'est vraiment des cris de cœur que nous portons également et qui doivent être entendus et que chacun doit jouer. Aujourd'hui, nous sommes dans cette situation de refondation et le soutien de la communauté ou bien de la population est indispensable et c'est vice-versa aussi. Donc, les autorités doivent soutenir aussi pour réduire cette vulnérabilité par rapport aux conséquences ou aux effets du changement climatique ou à l'arrêté des pluies ou bien aux inondations qui sont causées souvent par l'ensablement du fleuve. Parce que souvent, ce n'est même pas parce qu'il y a beaucoup d'eau. C'est parce que le fleuve est plein de sable qui fait que même si c'est une petite quantité d'eau qui arrive, ça va déborder et ça crée une désolation. Donc, c'est important de voir ces effets-là et qu'on puisse un jour ou bientôt dire plus jamais cela. On ne peut plus continuer.
Monsieur Abdou,
oui.
Qu'est-ce que ça vous a suscité, ce vox que vous venez d'écouter?
Je crois qu'on a... Ce que j'ai entendu là, c'était dans le même sens que moi-même j'avais parlé. Parce que même ils ont montré leur incapacité de faire quelque chose pour sauver ce truc-là. Et puis, c'est comme l'a dit monsieur le directeur... Et vraiment, il faut que l'État, c'est un cri de cœur, comme il l'a dit. Vraiment, notre cri de cœur, c'est de dire à ceux qu'on nous assiste dans ce désensablement. Le lit du fleuve là, le fleuve est rempli de sable. Ce n'est rien d'autre que le sable. Si on arrive vraiment à nous faire sortir ce sable là, franchement, ça allait contenir une quantité d'eau importante qui nous permettra de bien mener nos travaux comme nous l'avons mené dans des années antérieures. Mm-hmm. Parce qu'il fut un temps où on n'avait pas de problème pour cultiver, pour tout, on n'a pas de problème. Dans les années 70 que moi j'ai connu très bien, on n'avait pas de problème. Mais aujourd'hui, avec le fleuve, c'est à contre-cœur. Il n'y a rien d'assurant qui nous dit qu'on peut finir ce travail, commencer, qu'on peut vivre aisément là-dessus comme on le faisait dans le temps. Donc vraiment, il faut que l'État pense à nous trouver une solution à cela. Il faut qu'on fasse le désensablement. Et il faut que moi, on motive ces entrepreneurs-là à prendre tout ce qu'il y a. Qu'on fasse de ce lit-là un chantier quand l'eau quitte le fleuve. Il faut qu'on fasse de ça un chantier pour prendre le gravier, le sable, qu'on laisse les gens venir prendre ça. C'est-à-dire qu'on les oblige même à prendre, quand il n'y avait pas d'eau, qu'on les oblige à prendre leur truc là-bas. Au lieu d'aller creuser, faire des carrières dans des endroits où on peut encore construire, dans des endroits qui ne sont pas inondables, mais c'est là-bas qu'ils vont faire leur carrière pour prendre. Alors qu'on peut faire les carrières là dans ce lieu du fleuve.
Monsieur Sani, en tant qu'association des jeunes volontaires pour l'environnement, qu'est-ce que vous comptez faire comme action dans le futur autour donc de ce fleuve?
Nos actions présentement et dans le futur, c'est intensifier la sensibilisation pour que d'abord les communautés comprennent aussi la nécessité de contribuer à la sauvegarde du fleuve, c'est-à-dire en évitant en fait de transformer le fleuve en dépotoir, comme je l'ai dit, en participant à des actions de nettoyage des berges du fleuve, comme on l'a dit, mais surtout à monter une veille pour que les entreprises ou certains citoyens ne déversent pas leur dépotoir ou bien tout ce qu'ils n'aiment pas dans le fleuve directement. Ça, c'est une action à faire. L'autre action à long terme, parce que des études ont démontré que l'ensablement du fleuve est en partie la responsabilité ou bien l'une des causes, c'est vraiment la question du déboisement. Parce que tout au long de la vallée du fleuve, surtout, vous voyez, le bois énergie qui est consommé à Niamey provient vers le Burkina, vers la frontière avec le Burkina. Donc la plupart des arbres qui s'y trouvaient ont été coupés abusivement au profit du bois énergie. Et aujourd'hui, comme il y a peu d'arbres, donc c'est facile, les dunes de sable qu'il y a tout autour, quand on part ici à 24 km sur Bitinkojela, à 7h, c'est des dunes de sable qu'on a à Karegourou. Donc ces dunes, s'il n'y a pas d'arbres pour fixer davantage, dès qu'il y a des vents violents ou même des simples vents, le vent qui souffle comme ça, ça peut ramener les particules de sable dans le fleuve et contribuer à l'ensablement progressif du fleuve. Donc il faut qu'on ait à long terme, nous comptons quand même continuer à faire des actions de reboisement tout au long du fleuve, en tout cas les communes ou les villages riverains du fleuve, pour qu'on intensifie la question du reboisement, parce que les arbres constituent des remparts par rapport aux intempéries. Les arbres vont contribuer à fixer les sols. Et quand il y a d'arbres, vraiment les sols sont fixés, donc les sables, même si souvent il y a des vents violents, ça réduit l'intensité ou la force de ces vents, donc ça réduit considérablement la quantité de sable ou des particules qui peuvent se retrouver dans le fleuve. Donc je pense qu'il faut voir cela à long terme aussi. Parce que la question de désensabler avec des engins et autres, ça, les ONG ou les associations, les communautés n'ont pas cette capacité. Il appartient à l'État de mettre des programmes ambitieux dans ce sens pour qu'on puisse curer, comme on l'a dit, comme on fait le curage des caniveaux. Il est important qu'on puisse aussi curer le fleuve Niger pour que aider surtout les communautés qui dépendent de ce cours d'eau.
Oui, votre appel, Monsieur Abdou, vous avez quoi à dire, puisque nous sommes déjà à la fin donc, de cette émission.
Bon, moi, c'est d'abord que les autorités trouvent un moyen de désensabler le lit du fleuve. Et aussi, les digues de protection, vraiment, qu'on essaie de les faire des digues vraiment du nom, pas n'importe comment. Parce qu'actuellement, la digue que je vous dis, hein, qui est à Saga, vraiment, à long terme, ne peut pas protéger les rizières. Ce n'est que du machin, de la latérite qu'ils ont mis, et puis c'était et une route où même deux véhicules ne se croisent pas. Donc, il va falloir à ce qu'on fasse une route bien large, encore qui soit bien rehaussée. Et côté fleuve, moi je dis, hein, si vraiment on ne construit pas, on ne met pas du béton, on ne met pas de roches pour bétonner ça, franchement, c'est pas une digue. C'est pas une digue. Ça, il faut qu'on en pense côté du fleuve. Le côté fleuve, là, il faut bien qu'on mette quelque chose de ciment pour que l'eau ne creuse pas la digue. Parce que le plus souvent, c'est dans ces trucs-là que l'eau a une fuite pour inonder les rizières. En 92, c'était dû à ça. On avait rempli des sacs pour aller colmater les endroits où l'eau a pu ronger la digue. C'est avec des sacs remplis de sable qu'on a tenté de freiner le coulement de l'eau. Ça n'a pas marché. On a fait appel à l'État, ils n'ont pas fait quelque chose en 92. C'est des bonnes volontés, des commerçants qui nous ont aidés avec des pelles. On a pu pousser le truc. Maintenant, en 2020, l'inondation là, ça, vous voyez, il n'y avait pas eu de solution. Donc, il faut prévenir. On ne peut pas attendre jusqu'à ce qu'il y ait l'inondation et maintenant chercher au moment où l'eau nous inondait. C'est en ce moment qu'on va tenter de chercher des solutions. Non, il faut le chercher à temps. avant même qu'il n'y ait de dégâts. Donc il faut vraiment le désensablement et la digue, il faut faire une digue qui peut répondre à notre protection.
Monsieur Mohamed.
Oui.
Vous l'avez écouté.
Oui, effectivement.
Voilà.
Oui, c'est pas facile. Nous, on remercie les populations, mais je dis qu'il faut souvent des actions d'envergure également.
Mm-hmm.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on aille ensemble, l'État et les populations, hein, avec la sensibilisation. Et puis, l'État sera le coach et les populations vont suivre.
Mm-hmm.
Et là, vraiment, donc les actions de sensibilisation, de reboisement, de régénération de couverges végétales, de traitement des courries, on leur explique. Et puis là, on peut faire. Et là, il a souligné l'importance des barrages. En fait, les barrages, ce n'est pas seulement sur le fleuve, hein. Sur les affluents du fleuve, sur la Sirba, la Mekrou, la Komadougou, la Magia. Bon, la Magia, on en a à Zongoué, à Mozagué, à Kony. Mais c'est sûr qu'eux aussi souffrent d'ensablement. Mais c'est, en fait, l'eau, il faut mobiliser. L'eau, c'est la vie. On fait tout à partir de l'eau. Et l'agriculture. L'irrigation, c'est à partir de l'eau. Si on mange bien, on a la santé. Quand on ne mange pas bien, on tombe malade. On ne réfléchit pas bien. Donc, tout part à partir de l'eau.
Donc le ministère, selon vous, accompagne l'initiative locale,
Effectivement, compris. Le ministère accompagne l'initiative locale. Parce que le ministère, on fait des sensibilisations. On fait ce qu'on appelle des bulletins d'information au niveau de la direction des ressources en eau.
Mm-hmm.
On rédige des notes qu'on envoie au niveau des communes, au niveau des autres partenaires, des autres services techniques. On le fait. Et en plus, le ministère accompagne les populations. Quand on fait aujourd'hui les demi-lunes, par exemple, pour régénérer le couvert végétal, mm-hmm. souvent c'est du cash for work. C'est avec les populations que le ministère le fait. Parce que c'est eux qui viennent pour creuser. Et parce que ces demi-lunes, ils stockent de l'eau. Et puis, souvent, et puis vous voyez la verdure qui se régénère. Donc, c'est eux qui font le travail. Nous, on leur explique. Et puis, eux, ils accompagnent. Quand on fait les plantations d'arbres, vous voyez, c'est eux, c'est avec eux qu'on fait ça. Donc, c'est un travail qu'on fait en équipe. Mais je pense qu'il faut être plus agressif en matière de plantation d'arbres.
Merci, monsieur Mohamed. Monsieur Ayouba, votre appel à l'endroit de la communauté, surtout,
oui,
et des autorités.
Surtout pour moi, pour la communauté, de rester toujours vigilante parce que, comme on est surtout en une saison des pluies, il peut y avoir des débordements à tout moment, surtout que les digues ne sont pas très solides. Récemment, dans notre quartier à Sadia, il y a eu des ruissellements qui ont fait emporter des maisons. Donc, il faut que les gens, avec même des pertes en vie humaine, donc les gens doivent faire très attention et suivre les informations météorologiques pour anticiper sur d'éventuelles inondations et se mettre à l'abri. C'est vrai que peut-être les gens vont dire que le fleuve est ensablé et tout, mais aujourd'hui, le fait que c'est ensablé, que même une petite quantité d'eau peut provoquer une inondation. Parce que nous, lorsqu'on était à Gamkale, quand même, nous buvons directement l'eau de ce fleuve sans traitement. Mais aujourd'hui, tu ne peux même pas te hasarder. Je parle d'il y a 20 ans ou 25 ans. Donc aujourd'hui, l'eau est tellement sale, peu importe la saison, que tu ne peux même pas. Moi, j'ai tellement bu l'eau du fleuve sans avoir des problèmes, mais aujourd'hui, je ne peux même pas conseiller. Donc, il faut que les gens comprennent ça et apportent leur contribution pour réduire cette pollution. Il faut que les communautés se mobilisent surtout pour porter du plaidoyer auprès des autorités. On ne peut pas rester souffrir seul. Il faut que les communautés s'organisent pour partir à la rencontre des autorités à tous les niveaux pour passer leur message pour que les autorités acceptent ou comprennent aussi leur cri de cœur et agissent. Parce que c'est l'action dont nous avons besoin en ces moments. Aujourd'hui, plus que jamais, les communautés qui dépendent de ce fleuve ont besoin de la solidarité des autres communautés, mais surtout de l'engagement et de l'implication directe des plus hautes autorités pour les aider à faire face à ces problèmes, mais surtout à avoir une vie décente. C'est tout ce qu'on demande. Maintenant, aux autorités aussi de promouvoir en tout cas des projets innovants qui vont aller dans le sens non seulement de stopper l'ensablement, mais aussi d'écurer le fleuve. Et surtout d'impliquer davantage les communautés locales qui dépendent des eaux du fleuve, mais surtout aussi les organisations actives sur ces questions.
Voilà, chers auditeurs et auditrices de la radio Alternative Niamey, nous sommes à la fin de cette émission. Nous avons fait le tour avec nos invités sur les initiatives locales en faveur du climat. Nous avons abordé la question de l'assèchement des cours d'eau, le cas du fleuve Niger, mais surtout mis l'accent sur les initiatives locales qui sont faites pour le sauver des griffes des effets du changement climatique. Nous y étions dans ce studio avec M. Mohamed Hussein Ibrahim, responsable de l'hydrologie au ministère de l'hydraulique, avec également M. Sani Ayouba, il est le directeur exécutif de l'Association des jeunes volontaires pour l'environnement, et enfin avec M. Abdou Adamou, un producteur exploitant du fleuve Niger. Merci aux différentes équipes qui m'ont aidé à la production. Je suis Gadou Amadou Maimouna, je vous donne rendez-vous dans un autre forum et ce sera toujours avec le même plaisir. Au revoir et à très bientôt.
Ce forum est réalisé dans le cadre du concours de production de forums radiophoniques sur les initiatives locales en faveur du climat, organisé par le Studio Kalungu et financé par la coopération suisse.